secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Ghislaine David, préparée par Marie Dalquier avec à la technique Philippe Mercher. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Adjadj pour parler du paradis. Fabrice Adjadj, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste et dramaturge. En 2005, vous avez publié « Réussir sa mort » aux presses de la Renaissance, qui est actuellement disponible en poche à Poinceuil, qui a eu le Grand Prix catholique de littérature. Et vous avez publié de nombreux ouvrages, je me souviens de La profondeur des sexes, en 2008 et en 2011, donc récemment, il y a quelques mois, vous avez publié Le paradis à la porte aux éditions du Seuil. Alors, je salue également Lélie Anvar. Bonjour Lélie.
Bonjour.
Alors, je signale à nos auditeurs qu'il y a un petit changement dans Les Racines du Ciel. C'est que pour cette nouvelle saison, il y a deux changements. Ils le découvrent. Le premier, c'est que nous sommes le dimanche matin, donc de bonne heure à 7h du matin. Le deuxième, c'est que maintenant, vous devenez, à partir de cette saison, coproductrice et animatrice de l'émission. Donc, vous allez continuer, je les rassure aussi, de nous lire des textes, mais vous allez animer avec moi davantage l'émission. C'est ce que j'ai souhaité, parce que j'ai trouvé que votre voix, on ne l'entendait pas assez. Nous allons donc inaugurer avec Fabrice Adjadj cette formule un peu plus à trois. Et je vous donne tout de suite la parole pour commencer à interroger notre invité.
Oui, je suis très heureuse de prendre tout de suite la parole pour Le paradis à la porte. Et j'ajoute, il y a un sous-titre, Essai sur une joie qui dérange. Parce que ça permet évidemment de comprendre mieux ce titre ambigu, Le paradis à la porte. Vous en expliquez d'ailleurs dans l'ouvrage, à savoir que ça veut à la fois dire que le paradis est à portée de main et à la fois que nous mettons le paradis à la porte ou derrière la porte.
Alors, je dirais pas à portée de main comme chose que l'on pourrait saisir, mais plutôt à la porte comme ce qui vient frapper, hein, plutôt comme le mendiant qui vient frapper à notre porte, qui cogne et donc qui nous saisit plutôt. Et en même temps, ce que l'on refuse, ce à quoi on refuse d'ouvrir la porte. Voilà, donc c'est effectivement, il y a cette ambivalence dans le titre. Et pourquoi ? Parce que, alors bien sûr, le sous-titre vient éclairer cette ambivalence, comme vous l'avez bien remarqué, à savoir que la joie est dérangeante. Alors ça, il faudrait voir pourquoi, ou que la béatitude, comme son nom l'indique, implique une béance que l'on pourrait refuser.
Oui, en fait, c'est tout le propos de votre livre qui part de ce point de départ, qui est que le paradis serait ennuyeux. En réalité, vous partez de l'idée que notre époque tourne peut-être le dos à la notion même de paradis pour deux raisons. La première, c'est que bon, la perfection, le paradis, tout ça a l'air un peu ennuyeux par rapport à l'enfer, qui est plus valorisé, mais vous expliquez qu'en réalité, ce qui est valorisé dans l'enfer, c'est tout de même une idée de la joie et une idée du paradis. En tout cas, donc il y a cet aspect-là, et le fait que, aussi dans la tradition judéo-chrétienne, on a pu, dans une tradition judéo-chrétienne un peu mal comprise, on a pu croire que l'attente du paradis est quelque chose qui nous empêchait de vivre dans le monde pleinement. Et au fond, c'est ça votre point de départ. Et à partir de là, vous partez dans une sorte de méditation. D'ailleurs, vous nous avertissez au début de l'ouvrage qu'il ne s'agit pas de lire le livre de A à Z, ce que je n'ai pas fait. Je suis votre exemple, j'ai butiné. Et effectivement, c'est une suite de méditations sur cette notion de paradis, sur la notion de joie. Et vous convoquez pour cela beaucoup de figures, de musiciens comme Mozart par exemple, ou de sculpteurs comme Le Bernin, mais aussi beaucoup, beaucoup d'écrivains qui vous tiennent à cœur, que vous critiquez ou pas d'ailleurs, mais enfin avec lesquels vous entrez en dialogue sur cette notion de joie et de paradis. Bon, ça va de Kafka à Baudelaire, en passant par Descartes et Nietzsche. Mais voilà, en fait, c'est vraiment, je dirais, un livre de méditation sur qu'est-ce alors, que le paradis.
N'oublions pas Dante, parce que c'est quand même le point
bien
de départ.
Sûr. Bien sûr, alors Dante est évident comme Mozart. Ce qui est moins évident, c'est de convoquer, par exemple, Kafka ou Proust, puisqu'ils bénéficient vraiment d'un petit chapitre chacun, enfin, avec une petite monographie. Alors, je vais reprendre les deux points que vous avez mentionnés. Le premier, effectivement, c'est cette idée que le paradis pourrait être ennuyeux. Bien sûr que dès que je dis paradis ennuyeux, l'idée même de cet énoncé, vous voyez, est absolument incompréhensible, parce que c'est comme si je disais un cercle carré. Donc forcément, je ne dois pas mettre au paradis quelque chose qui serait ennuyeux, sinon ce ne serait plus le paradis. Cependant, qu'est-ce qui induit cela ? C'est cette idée qu'au paradis, comme sont essuyées toutes larmes, comme il n'y a plus de peine, il y a cette idée qu'il n'y a plus, vous voyez, la résolution de l'effort, donc l'effort avec le couronnement de l'effort, ou alors il n'y a plus de drame. Et c'est pour cela que Victor Hugo, lorsqu'il parle de Dante dans son livre sur Shakespeare, vous savez, il y a un chapitre sur tous les génies de la littérature, mais derrière chacun d'eux, on retrouve à chaque fois Victor Hugo, bien sûr. Eh bien, il évoque justement la Divine Comédie et il dit que à mesure que l'on monte, eh bien, on se détache parce que nous étions bien de l'enfer, nous étions bien, mais le paradis nous ennuie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de drame. Or, d'abord, c'est une erreur, parce que c'est le signe qu'il n'a pas lu, à mon avis, le paradis de Dante, ou en tout cas, je serais étonné qu'il l'ait bien lu, parce que le paradis de Dante est beaucoup plus violent que son enfer. Je pense à ce passage où Béatrice dit « Si tu voyais mon rire, tu serais comme ces mêlées réduits en cendres. » Vous voyez, la possibilité pour Dante, pour ce voyageur, ce pèlerin en paradis, d'être réduit en cendres, possibilité qu'il n'avait même pas en enfer. C'est-à-dire qu'il y a un tel débordement de joie, et il y a cette violence, parce que dans le paradis de Dante, il y a des exigences à l'égard de la terre, il y a des sortes de réquisitoires incroyables. Donc, vous voyez, c'est un lieu, et puis ces danses, ces chants, qui sont tellement débordants qu'ils terrasseraient, vous voyez, un homme dans la condition terrestre. Donc ça, c'est erroné, et c'est vrai que le livre s'attache à montrer que le ciel n'est pas une dissolution dans l'éternité, avec une abolition du drame, mais l'entrée dans une aventure qui est proprement joyeuse. Un peu comme le drame théâtral. Au théâtre, vous assumez toutes les émotions, même la terreur et la pitié, mais elles sont toujours assumées dans la distance de la représentation et donc dans une joie. Ce que nous aimons dans le drame, en réalité, c'est justement ce qu'il peut avoir de joyeux. Parce que quand on est vraiment dans le drame qui nous écrase, à ce moment-là, on veut en sortir, on ne veut pas y rester. Donc, ce dont parle Victor Hugo, c'est un drame finalement paradisiaque, puisque c'est le drame qu'organise déjà la littérature ou la poésie en regardant les choses à partir d'un ciel ou à partir d'un verbe, on pourrait dire. Et puis après, la deuxième chose que vous avez dite, effectivement, la grande objection qu'on peut faire par rapport au paradis, c'est l'objection de Nietzsche, c'est de dire finalement la notion de paradis est nihiliste. Elle est nihiliste parce que on invente un autre monde pour calomnier et salir ce monde-ci, comme le dit Nietzsche. Et donc c'est fuir l'ici et maintenant, ce serait fuir ce qui nous est donné ici et maintenant, pour être dans des projections imaginaires, idéales.
Il reprend Feuerbach d'ailleurs sur ce point.
Voilà,
projeté le meilleur de ce monde sur ce dieu imaginaire.
Sauf que chez Feuerbach, vous voyez, ça fonctionne comme une sorte d'horizon qui crée un progrès, une dynamique humaine. Alors que pour Nietzsche, c'est vraiment, il croit plus au progrès, Nietzsche. Hein, c'est vraiment l'ici et maintenant avec cette doctrine de l'éternel retour. Donc si tout commencer. Vous voyez, la doctrine de l'éternel retour n'est pas une doctrine temporelle cyclique, c'est l'idée que tout se joue ici et maintenant. Et donc, effectivement, certains ont pu avoir cette conception nihiliste du paradis, cette conception où il faut souffrir ici-bas pour se payer son ciel là-bas. Vous voyez, imaginez cette conception comptable avec un dieu qui serait une sorte de tortionnaire reconnaissant. Vous voyez,
ça durait très longtemps, ça.
Oui, de sadique rémunérateur. Oui, alors, c'est une conception erronée. Elle ne se trouve pas dans l'Évangile. Elle ne se trouve pas dans les grands textes du magistère de l'Église. Il ne faut pas oublier que le magistère de l'Église catholique a très tôt lutté contre le manichéisme et donc contre cette idée que la création terrestre ou le temps était une chute. Et qu'il fallait tout de suite aller vers un au-delà qui était... Non.
Mais c'est plutôt la prédication populaire qui a entretenu cette peur de l'enfer et ce paradis dans lequel, bon, il faut souffrir sur Terre pour avoir
exactement.
Accès à...
Exactement. Et c'est vraiment passé à côté de, à mon avis, de l'essence du christianisme. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment fondamental.
Dans l'Ancien Testament, il y a quand même des évocations du paradis et de l'enfer, non, si je ne m'abuse.
Oui, non, mais ce n'est pas l'idée qu'il n'y a pas de paradis ou d'enfer, mais c'est l'idée que finalement, ce serait pour après. Or, les grands-pères de l'Église disent toujours que finalement, la gloire, c'est la floraison de la grâce, et la grâce est donnée dès maintenant. Ou encore, dans ce très célèbre texte de saint Paul sur la charité ne passe pas, ça veut dire que la charité est la même ici
et là-bas. Dès qu'on est dans l'expérience de l'amour et de la grâce, maintenant on est déjà dans une forme
de
béatitude.
C'est déjà le paradis et même c'est déjà la vie paradisiaque. Alors il y a le voile, on n'est pas dans la vision, ça c'est la première chose. Et puis deuxième chose, et c'est là où la joie dérange, c'est que ici-bas, d'une certaine façon, la joie est souffrante. C'est la joie elle-même, d'une certaine façon, qui conduit à la croix. Ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'était le fait qu'on ne souffrait pas pour être joyeux, mais c'est le fait même d'être joyeux qui nous conduisait à la croix. Regardez d'ailleurs la théologie de l'incarnation, c'est quoi ? C'est pas quelqu'un qui souffre pour entrer dans la joie, c'est celui qui est la joie, qui descend dans notre misère pour l'investir, pour investir cette misère de sa joie. Et pour la relever. Alors, la question, c'est de dire, dans toute joie, il y a ces deux éléments. C'est ça qui la rend dérangeante. D'abord, la joie est toujours reçue. La joie n'est pas... La masturbation ne conduit pas à la joie, si vous voulez. Les plaisirs...
Le petit plaisir et la grande joie.
Les plaisirs qu'on se procurerait soi-même sentent toujours la sueur, le labeur. Et vous voyez, ils sont en plus misérables. Enfin, immédiatement, on le sent. Donc, ce n'est pas la joie. La joie est toujours liée à une rencontre. Elle est toujours liée à quelque chose qu'on pourrait appeler une communion. Et donc, je ne suis pas maître de la joie, je la reçois. Donc ça, c'est la première chose. Je dois avoir l'humilité. Et ça peut avoir quelque chose de déchirant pour l'orgueil, de destructeur pour l'orgueil, voyez, de reconnaître que la joie est reçue. Je ne peux pas me la donner à moi-même. Et d'ailleurs, prétendre se procurer son plaisir par soi-même, c'est une définition du péché et de l'enfer. Ça, c'est vraiment dans la grande théologie, et notamment chez saint Thomas d'Aquin. Et puis, l'autre chose, c'est que cette joie, elle vient à moi, elle m'est donnée, je la reçois, mais je la reçois aussi pour la donner. Est-ce que je pourrais, ayant reçu la joie, la conserver pour moi-même? Vous voyez, je reçois ce fleuve et je veux le conserver dans un petit bidon hermétiquement clos. Il se change en eau stagnante. La joie, on pourrait dire, est toujours fluviale, c'est-à-dire qu'elle se reçoit pour se donner ou elle se reçoit en se donnant. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est que... Mais ça remet les choses à l'endroit, si vous voulez. C'est que quand je découvre la joie, quand je sens cet appel de la joie, eh bien, j'ai le devoir. J'ai le devoir de la communiquer aux autres. Je ne peux pas supporter l'injustice. Je ne peux pas supporter ceux que l'on éloigne de la joie et ceux qui sont les ennemis de la joie. Donc, je vais devenir témoin de la joie. Et en devenant témoin de la joie, eh bien, bien sûr que j'entre dans quelque chose qui est douloureux. Et je suis mis en croix. Voilà, c'est ça. C'est la joie qui conduit à la croix. Et donc là, on remet les choses dans l'ordre. La croix est pour la joie, mais elle est aussi par la joie, parce que c'est ça qu'elle veut communiquer.
Et là, on rejoint quelque chose qui n'est pas si éloigné, finalement, de ce que disait Nietzsche, parce que vous parliez de Nietzsche.
Tout à fait.
Qui valorise la condition humaine dramatique, en montrant que la tragédie fait partie de la vie et que les plus grandes joies, les plus grands amours viennent au sein d'une souffrance, d'une tragédie. Il ne faut pas refuser la tragédie de la vie.
Ça, ce que vous dites, Frédéric, est parfaitement juste, parce que... au départ, Nietzsche commet une erreur parce qu'il est sur le christianisme, parce que la vision qu'il a du christianisme, on lui vient d'un père pasteur du puritanisme ambiant et donc d'une version déformée. Il est persuadé que christianisme et tragédie s'opposent. C'est pour ça qu'il va jouer la tragédie contre le christianisme et donc Dionysos contre le crucifié. Jusqu'au moment où finalement les deux figures vont se rencontrer, au moment de sa folie, où il va signer des lettres « Dionysos le crucifié ». Donc on ne sait plus très bien. Or, c'est une erreur, parce que s'il y a bien une religion qui est tragique, mais qui est lié justement à cette question du tragique de la joie, c'est le judéo-christianisme. La plupart des autres sagesses sont des sagesses où, d'une certaine façon, on vous dit « il faut vous détacher ». L'idée qu'il y a un drame, l'idée qu'il y a une tragédie vient d'une erreur de vos représentations. Donc travaillez sur vos représentations, travaillez sur votre souffle, travaillez et vous vous détacherez, vous verrez qu'il n'y a pas de drame, que le drame est une illusion. Mais là, dans le judéo-christianisme, on dit le drame est réel, le drame est tout à fait réel et même, ça va plus loin, il y a un drame douloureux, mais il y a aussi un drame joyeux et la condition de l'homme est essentiellement dramatique.
Et vous dites judéo-christianisme, parce qu'on le voit très bien par rapport au christianisme, à ce que vous avez expliqué sur la croix, vous diriez la même chose du judaïsme ?
Oui, parce que le judaïsme n'est pas une religion qui nous tournerait vers un plérôme, un monde de la perfection qui serait dans un au-delà, qui nous détacherait du temps. Au contraire, tout se joue dans l'histoire même. L'essence même d'une religion révélée, hein, donc telle qu'elle est donnée déjà dans le judaïsme, c'est précisément cette idée que Dieu se révèle dans l'histoire et que l'histoire a une consistance et que ce qui arrive, les événements, vous voyez, que sont importants. Alors que d'une certaine façon, vous avez des religions qui sont ou des sagesses qui sont de type plutôt philosophique, où on se détache de l'histoire et des événements. Les événements sont, vous voyez, des accidents, des choses, des émanations, des dégradations de l'éternel. Or non, l'idée que l'éternel se révèle comme événement à travers le temps donne une dignité au temps et à l'histoire.
À travers les aléas de l'histoire, avec ses hauts, ses bas, ses drames.
Exactement. Et c'est radicalisé, bien sûr, à travers le mystère de l'incarnation, où Dieu se fait chair et rentre dans le drame de la rédemption, où là, vous voyez, vous avez carrément non seulement la chair qui est assumée dans le divin, maintenant que vous dites qu'est-ce qu'il y a au ciel, qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible, eh bien, il y a de la chair. C'est ça qui est incroyable dans le christianisme. C'est que l'invisible ne se fait pas par détachement de la chair ou par dépassement de la chair, mais vraiment par assomption de la chair.
Et c'est tout le paradoxe un peu de l'histoire du christianisme où vous nous parlez là de ce qui est le cœur de sa théologie et en même temps, c'est pas tellement malheureusement ce qui a souvent été vécu où il y a une problématique avec le corps, avec la chair, avec l'incarnation. Et comme s'il fallait nier effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, cette vie terrestre, ce corps-là pour avoir une vie pleine dans l'au-delà. Comment expliquer ce retournement, cette subversion presque du christianisme ?
Bien, d'abord parce que il y a quelque chose dans le mystère de l'incarnation qui est éminemment paradoxal et qu'on aura toujours tendance à tomber soit dans le matérialisme, soit dans le spiritualisme, c'est-à-dire les deux erreurs contraires. La chair sans l'esprit, l'esprit sans la chair. Ou alors un esprit diminué dans une chair diminuée. Remarquez que ces trois moments sont exactement les trois moments de la tentation du Christ au désert. Et la première chose que propose le Satan au Christ, c'est voilà, tu as faim, change ces pierres en pain. Et il lui répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, c'est l'idée vraiment du pain, vous voyez, tout faire pour uniquement la matière, quoi, hein, et le soutien du corps. Oui, mais le corps est aussi pour l'esprit, il est aussi voix, il est aussi chant, il est aussi louange. Donc, vous voyez, il est fait aussi pour ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça, c'était la première tentation, vous voyez, la chair sans l'esprit. Puis après, il y a la deuxième tentation, qui est l'esprit sans la chair, qui est, vous savez, le diable emporte Jésus au sommet, au pinacle du temple, et il lui dit, eh bien, jette-toi du haut du temple, parce qu'il est écrit, il envoie ses anges pour te garder, et ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte les pierres. Et là, le Christ lui dit, attention, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, il faut faire attention, on n'est pas non plus dans une sorte de spiritualisme où on serait complètement détaché des réalités terrestres. Donc vous voyez, cette tentation-là, puis après, bon, il y a la troisième tentation où le démon demande à Jésus de l'adorer pour lui donner tous les royaumes de ce monde. Mais vous voyez, là, il se trompe d'esprit parce que ce ne serait plus l'esprit saint qui dilate, mais l'esprit impur, le mauvais esprit, pour avoir une domination du monde et non pas pour entrer dans cette communion charnelle. Donc vous voyez que dès le départ, on nous dit que ces trois erreurs sont possibles et ces trois tentations, ce n'est pas des tentations extérieures, on pourrait dire, à l'Église. Elles se jouent dans l'Église et à chaque fois, il y a un combat. Si je vous dis, si on vient de dire que l'essence de la vie humaine et de la foi est dramatique, c'est normal qu'à chaque fois, au sein de l'Église, il y ait des errances, des combats, des hérésies, des manières de... Et à chaque fois, il faut rentrer à nouveau dans ce mystère qui est éminemment paradoxal, qui nous dépasse et qu'on a toujours tendance à vouloir réduire.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, Les Racines du Ciel, en compagnie aujourd'hui de Fabrice Hadjadj. Nous parlons du paradis. Alors Fabrice Hadjadj, quel est ce morceau de musique que vous avez choisi?
Alors, c'est un morceau qui s'intitule « L'Etentur Celi », donc « Les cieux se réjouissent ». Une pièce grégorienne qui est chantée par Damien Pueblo, qui chante tous les dimanches, mais qui fait aussi des grands concerts, à l'abbaye du Toronnet, qui est cette abbaye cistercienne, peut-être une des plus belles.
Des trois maîtres pères de Provence.
Voilà, si ce n'est la plus belle. Le Corbusier avait une admiration sans borne pour le Toronnet, et aussi, par exemple, des architectes contemporains comme John Pawson. Et vraiment, Damien Pueblo est un grand, grand chanteur grégorien, un des plus grands actuellement, qui arrive à se servir de cet édifice de pierre comme d'une caisse de résonance. Et on voit ce que peut devenir une voix comme ça, qui envahit l'espace et puis qui nous transporte presque dans un autre espace-temps.
Et c'est vrai que l'acoustique du Toronnet, une abbaye que je connais bien aussi, est extraordinaire.
Elle est extraordinaire, mais elle est très dangereuse parce que la réverbération est tellement longue qu'on ne peut pas jouer n'importe quoi et qu'il faut vraiment bien travailler sa voix, jouer avec des pleins et des déliés, pas tout accentuer pour pas créer des sortes de pataquès, voilà. Et c'est très difficile, tout le monde n'y arrive pas.
Lélie Anvar, pour en revenir au paradis.
Oui, ce que vous montrez aussi dans votre livre, quand même, pour en revenir à une histoire du paradis en quelque sorte, c'est que le paradis, c'est avant tout quand même le lieu d'où on a été chassé. Donc il y a quand même une nostalgie qui est liée à la notion de paradis. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous fait dire qu'on trouve le paradis convenu, un peu ennuyeux, mais qui a au cœur, finalement, de tout être humain, même ceux qui ne croient pas du tout au paradis, et même ceux qui le battent en brèche, comme Nietzsche, par exemple, eh bien, il y a quand même cette nostalgie fondamentale. Et vous liez la notion de paradis à la perte de l'Éden, naturellement.
Oui, alors c'est une question délicate, mais fondamentale. Il est certain que Nietzsche cherche encore quelque chose de paradisiaque. Il donne sa définition. Vous savez, chasser le paradis, il revient au galop. Et chacun va donner après une définition du bonheur, une définition de ce qu'est la perfection, ce que doit être l'homme, comment... Donc la vraie question, c'est quel est le vrai paradis, celui qui est d'un plein déploiement de ce qu'est l'humanité, et quels sont les faux qui, au contraire, sont étouffants. Même les totalitarismes ont voulu faire des paradis. Donc, d'une certaine façon, on n'évite pas la question. Alors, d'où nous vient ce désir du paradis, c'est ça votre question? Alors oui, le mot paradis est ambigu. Il y a deux paradis dans la Bible. Il y a le paradis terrestre, qui est un paradis perdu, dont nous avons sans doute la nostalgie. Et il y a le paradis qu'on appelle céleste, mais qui ne sera pas moins terrestre. En tout cas, il y aura une terre nouvelle et des cieux nouveaux, à l'intérieur de la logique très concrète de l'incarnation. Et celui-là, c'est un paradis que l'on doit non pas gagner, parce que c'est pas un mérite, c'est lié à la grâce, mais que nous devons accueillir. Voilà. Alors, la Bible, dès le départ, la Genèse nous dit qu'on ne peut pas revenir au paradis perdu. Et dénonce déjà toutes les tentatives de paradis régressif.
D'ailleurs, Dieu met un chérubin pour garder l'entrée du paradis, pour pas qu'on ait la possibilité d'y revenir.
Avec un ange à l'épée de feu, de telle sorte que la rédemption n'est pas une restauration à l'état initial. C'est pas un retour en arrière. Déjà, dans le judéo-christianisme, là encore, on voit cette idée de la consistance du drame, de l'histoire, du temps. La flèche du temps est mise en marche.
Ça veut dire qu'il ne faut plus rechercher le paradis sur Terre, complètement.
Alors,
enfin, il ne faut plus rechercher le jardin d'Éden, en tout cas.
Il faut plus, en tout cas, il ne faut pas prétendre produire sur Terre un paradis en plénitude. Dès que l'homme a voulu faire par ses propres forces un paradis sur la Terre, ça a tout de suite fait un enfer très convenable, comme disait Paul Claudel. Donc c'est bien ça qu'il faut voir. Alors, d'où vient maintenant ce désir? C'est sûr que par rapport à certains auditeurs, la question du paradis semble débarquer de nulle part, parce qu'on est dans une société très sécularisée. Hein. Mais en réalité, on voit qu'elle est partout, cette question-là. Elle est dans les paradis fiscaux, les paradis tropicaux, le paradis latin, qui n'est pas l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. Oui, non, c'est à côté de Saint-Nicolas du Chardonnay, mais ce n'est pas là. C'est
une autre forme de paradis.
On voit des revues, voilà, topless.
Oui, mais alors là, justement, je, c'est peut-être une critique que je formulerais, parce que vous développez ça, cette idée dans le livre, qu'on, nous sommes habités du paradis dans le sens... dans le sens profane, ça veut dire qu'on recherche quand même quelque chose qui est de l'ordre du plaisir.
Si on n'a plus une vision juste du paradis, on tombe toujours dans des ersatz. Voilà.
Oui, non, mais c'est ça, c'est quand même une dévalorisation du terme.
Voilà,
quand on
ça,
dit
ce
paradis
sont des
fiscaux,
ersatz. Oui, bien sûr, et c'est toujours régressif. Mais ça veut dire que ce terme nous hante et que finalement, il fait partie d'une libido, on pourrait dire, inconsciente, refoulée et qui réapparaît sous des formes névrotiques. C'est ce qu'on pourrait dire, et c'est bien ça. Et pourquoi est-ce qu'on a, cette chose est si obsédante, et pourquoi est-ce qu'elle revient, même quand on prétend en avoir fini avec le paradis? Et notez bien que le marxisme prétendait en avoir absolument fini, mais pourquoi faire pour créer la société sans classe, la société parfaite ici-bas, et donc réintroduire la notion de paradis terrestre. Donc, on ne peut pas y échapper. Et d'ailleurs, mon premier chapitre, un chapitre presque exclusivement sur la politique, hein, et sur l'impact du paradis en politique. Donc, l'enjeu ici, c'est de bien comprendre qu'il y a quelque chose qui vient à nous, contre lequel on ne peut rien, qui n'est pas une invention humaine, qui est une donnée de notre conscience. Et pourquoi c'est une donnée de notre conscience? Parce que dans la dynamique même de notre être, dans les expériences les plus concrètes que nous pouvons faire, il y a toujours cette tension vers un accomplissement qui est dérobé, qui est tout le temps dérobé. Et on peut prendre l'expérience de la vérité. À chaque fois que j'apprends quelque chose, que j'approche de la vérité, je me rends compte qu'il y a encore quelque chose que je n'ai pas atteint et je veux aller vers une vérité tout entière qui recule à mesure que j'approche.
Donc il y a une soif jamais satisfaite finalement.
Voilà. Ou encore l'expérience de la beauté, où dans un même instant m'est donnée la promesse du paradis, comme si je l'entrevoyais, et en même temps, ça m'est retiré. C'est comme si j'avais un avant-goût du ciel, donc joie de cet avant-goût, et en même
temps, ça ne
dure
pas.
Voilà, comme ça n'est qu'un avant-goût, c'est pas le goût, je me rends compte que je n'ai pas encore le goût, et donc mélancolie. Et ça, c'est un thème très baudelairien, vous savez, Baudelaire est sans doute un des plus grands poètes du paradis, on l'oublie, mais du paradis, il a écrit d'ailleurs les paradis artificiels, donc il a un discours sur les contrefaçons du paradis, et il dit très bien dans les paradis artificiels que le paradis est donné par grâce, il y a quelque chose, on se réveille un matin et tout d'un coup, tout est dilaté, donc ça ne dépend pas que de nous et de notre pouvoir, et que le drame, c'est d'avoir une logique de la mainmise sur le paradis, comme si on pouvait le produire par nous-mêmes, par la technique, par différentes choses. Et surtout, toutes les fleurs du mal sont un texte du paradis désiré et inaccessible, et donc du spleen. Souvent, on a fait de Baudelaire un auteur du spleen, mais le spleen est une notion secondaire.
Oui, c'est si... spleen et idéal, d'ailleurs.
Voilà, spleen et idéal. Donc, c'est parce qu'il y a l'idéal saccagé, c'est parce qu'il y a le paradis inaccessible, barré, qu'il y a spleen. Et donc, c'est un auteur du paradis, Baudelaire.
Lélie Anvar, je crois que vous vouliez justement lire un texte de Baudelaire.
Oui, absolument.
Que vous citez dans votre livre.
Non, en fait, vous le citez assez peu, bien qu'il soit un des plus célèbres dans lequel apparaît le mot paradis. Mais c'est vrai que... enfin, j'ai beaucoup aimé votre chapitre sur Baudelaire. Je trouve que vous avez une lecture extrêmement fine de Baudelaire, dans lequel justement vous montrez ça. Vous montrez que finalement, toute son œuvre, elle est bâtie sur une nostalgie de la grâce. Et je trouve que c'est une intuition que j'ai toujours eue, et je suis très heureuse que quelqu'un ait mis des mots sur mes intuitions. Et vous évoquez d'ailleurs le voyage, que j'aurais pu lire, mais comme c'est un peu long, je ne l'ai pas choisi. Le voyage qui clôt justement les fleurs du mal, et qui est un poème dans lequel on voit qu'il y a cette incroyable nostalgie de la grâce. Et en effet, le poème que j'ai choisi, c'est « Mosta et Errabunda », c'est-à-dire justement « choses tristes et vagabondes ». Et on voit que le paradis perdu, c'est le fameux innocent paradis des amours enfantines, et qu'il y a quand même un lien entre paradis et pureté, et qu'il y a cette perte de la pureté qu'on ne pourra plus jamais retrouver. Quand vous avez dit tout à l'heure, Frédéric, que le paradis est gardé par des chérubins parce qu'on ne pourra jamais y retourner, ça veut aussi dire ça. Ça veut dire qu'on ne peut jamais retrouver cet état de pureté d'avant la faute qui nous a appris la vérité sur les choses et qui nous a fait perdre notre innocence. Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan de l'immonde cité, vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité. Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe. La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Quel démon a doté la mer rauque chanteuse qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs de cette fonction sublime de berceuse. La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate, loin, loin, ici la boue est faite de nos pleurs. Est-il vrai que, parfois, le triste cœur d'Agathe dise, loin des remords, des crimes, des douleurs, emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate. Comme vous êtes loin, paradis parfumé, où sous un clair azur tout n'est qu'amour et joie, où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé, où dans la volupté pure le cœur se noie, comme vous êtes loin, paradis parfumé. Mais le vert paradis des amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrant derrière les collines, avec les brocs de vin le soir dans les bosquets, mais le vert paradis des amours enfantines, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs. Est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine ? Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs et l'animer encore d'une voix argentine, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs.
Fabrice Adjadj, vous connaissiez ce poème, j'imagine ?
Oui, bah oui, forcément. Le vers paradis des amours enfantines, c'est un des vers les plus connus de Baudelaire, mais que je cite d'ailleurs. Mais c'est vrai que je ne fais pas de commentaires, spécialement d'ailleurs des poèmes qui sembleraient les plus évidemment liés au paradis. Justement, j'essaye de montrer dans l'œuvre les parties plus cachées. Vous avez parlé de la pureté, et ça c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'en fait, bien sûr qu'il faut vivre. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est il faut vivre ici et maintenant. Nous ne cherchons pas un ailleurs, le paradis n'est pas ailleurs. Nous ne cherchons pas un demain, le paradis n'est pas demain. Parce que ce serait l'ailleurs que ce serait encore un lieu de cet espace, il faudrait prendre une fusée. Bon. Ou alors ce serait demain, ce serait un moment du temps. D'ailleurs c'est ce qu'a cru finalement le marxisme, ou toutes les logiques révolutionnaires avec le paradis, demain. Mais c'était toujours les lendemains qui chantent étaient toujours repoussés, s'inédiés. Donc vous voyez, c'est ici et maintenant. Mais la question c'est, qu'est-ce que c'est que l'absolu ici et l'absolu maintenant ? C'est exactement la définition que donne saint Augustin de l'éternel. L'éternel, vous savez, il dit un présent qui durerait, un présent qui serait absolu, plein. Ce serait l'absolu ici et maintenant. Et donc, ce qu'il faut constater, c'est que nous voulons être ici et maintenant. Nous voulons être ensemble, les uns avec les autres. Mais qu'est-ce qui se joue ? Notre capacité est trop faible pour accueillir toute chose, pour chanter la beauté d'un visage, d'un oiseau qui fend le ciel, d'une fleur qui apparaît. Ce monde est blessé, il y a des choses qui nous empêchent aussi d'être ici et maintenant, la souffrance. La souffrance, on ne peut plus être ici. On veut s'arracher, on veut changer de lit. on n'arrive plus à être avec les autres quand on souffre. Et puis le péché, et puis cette impureté dont vous parliez, qui fait que on sait très bien qu'on voudrait être les uns avec les autres, et au lieu de cela, on entre dans des petits jeux de séduction, de domination, où l'on n'arrive pas à entrer dans cette joie de la rencontre. Et donc, oui, il faut être ici et maintenant, mais nous ne le sommes pas encore. Il y a des choses qui font obstacle. Et toute la question de l'amour, finalement, ou de la grâce, c'est précisément commencer cette dilatation qui nous permet d'accueillir toute chose, de nous accueillir les uns les autres, et d'entrer dans une plénitude de l'ici et maintenant qui nous est donnée comme participation à l'éternel, finalement.
Alors, vous le dites très justement, vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment la joie vient de la rencontre, vient de l'amour finalement. Et moi, quand je vous entendais parler tout à l'heure du paradis perdu, de l'Éden, de la nostalgie de l'Éden qu'on a, je me dis, bon, je ne sais pas si Adam et Ève ont existé, s'il y a eu un Éden. En tout cas, ce qu'on a tous vécu, c'est une sorte de communion totale dans le sein maternel. Et je me posais la question, je ne sais pas, j'imagine que les psychanalystes ont dû s'en charger bien avant moi, est-ce que finalement, c'est pas ça la nostalgie du paradis perdu qu'on a tous, c'est-à-dire la nostalgie d'un amour fusionnel, d'une communion totale avec la mère?
Alors, non, parce que justement, ce serait là typiquement le paradis régressif. Si c'est fusionnel,
oui, mais c'est peut-être
dans
la nostalgie qu'on a.
Oui, alors c'est la nostalgie.
Je cherche la compréhension de cette quête.
L'enjeu, par exemple, de penser le paradis comme relation de communion et non pas de fusion, hein, la communion maintient la distinction. Ou comme dans le christianisme, le rapport père-fils aussi, c'est précisément éviter le rapport fusionnel de la régression intra-utérine. Quoi. Pensez ça,
c'est
bon,
peut-être
voilà.
Ça, la nostalgie qu'on a, qu'il faut éviter d'y revenir, d'où
l'ange. Oui, voilà. C'est une nostalgie, là, justement, avec l'ange qui vient barrer, on pourrait dire, la régression au sein maternel. Mais il y a quand même quelque chose dans cette expérience, parce que même si on dit que nous avons tous eu cette expérience et que ça se joue comme ça dans l'humanité, hein, ce n'est pas tous les êtres vivants qui sont portés comme ça dans le sein. Et penser que notre première habitation fut le ventre d'une femme, c'est une chose extraordinaire quand même. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, contrairement à ce qu'ont dit beaucoup de philosophes, vous savez, le fait que nous étions jetés au monde. Et je trouve ça chez Sartre qui reprend Heidegger, l'être jeté. Mais avant d'être jeté, l'être est accueilli. Nous avons d'abord été accueillis. Et c'est parce que nous avons été accueillis que nous pouvons, après, nous sentir jetés ou rejetés. Il faut avoir une expérience, on pourrait dire, de la demeure pour avoir après l'expérience de l'exil. Sinon, vous voyez, pour comprendre l'exil, pour saisir l'exil en tant qu'exil. Donc forcément, il y a quelque chose en nous qui est donné à travers le sexe, finalement, et à travers, justement, cette première demeure qui est le ventre de la femme. C'est ça qui vient constituer, je pense, dans l'ordre des choses, qui est un ordre, bien sûr, voulu par la Providence, qui vient constituer en nous, effectivement, une sorte d'imaginaire de base, de structure, on pourrait dire fondamentale, à partir de laquelle on peut construire quelque chose. Et c'est pour ça que tous les drames qu'il y a eu, qui peuvent déjà commencer avec la vie intra-utérine ou peu après la naissance, quand l'être n'est pas accueilli, parce qu'une fois qu'on est né, il y a encore cette matrice que forment les parents, eh bien ces drames sont des drames qui donnent beaucoup de difficultés justement à se déployer dans l'existence. Donc c'est sûr que c'est un socle fondamental.
Lilian Vard.
Oui, alors je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur l'ici et maintenant, que le paradis n'est pas à venir, etc. Je suis assez d'accord avec cette lecture, mais il faut quand même reconnaître que c'est une lecture que je qualifierais d'herméneutique, de mystique, de la notion de paradis, parce que les religions telles qu'elles sont établies ne nous disent quand même pas ça. Même dans les évangiles, on a cette notion que les justes seront récompensés et que ceux qui sont injustes ne le seront pas, voire qu'ils seront châtiés. Je veux dire, la question éthique est quand même là, à l'œuvre, dans les notions de paradis. Si on devait faire une histoire du paradis, il ne faut quand même pas oublier que pendant des siècles et des siècles, si ce n'est des millénaires, ce qui fait le lien entre paradis et notre vie, c'est tout de même comment je vais vivre pour préparer ma vie dans l'au-delà. Vous dites non, c'est pas un au-delà. Quand même, dans la tradition, c'est un au-delà. Je suis d'accord avec vous qu'on peut le lire autrement, que Dante, par exemple, le lit autrement, puisque le paradis, finalement, n'est que la vision de la lumière. Au fond, c'est d'arriver dans la vérité. C'est pas du tout un jardin dans lequel il coule des fleuves de lait, etc. Mais néanmoins, vous pouvez quand même pas évacuer comme ça. C'est peut-être un peu...
Alors,
vous le faites un peu rapidement.
Je
vous évacuez
pas...
la
non,
question
non,
éthique. Le fait qu'il y a quand même des justes et des injustes, et il y a quand même...
Dans ce que j'ai dit, je l'ai pas évacué, puisque, bon, d'abord, dans l'Évangile, il est dit que le royaume est au milieu de vous, donc la question de le penser uniquement comme un avenir ou un au-delà, vous voyez, est quand même remise en cause radicalement ici. La deuxième chose, c'est que, j'ai dit justement qu'on n'y avait pas accès en raison spécialement du péché. Et je rappelle que précisément le péché nous empêchait d'accéder au paradis. Et c'est pas tellement en termes de rétribution qu'il faut le penser. On peut le prendre, l'image de la rétribution est forte. Mais il faut bien voir que à celui qui a aimé, ben, le salaire de l'amour, c'est de pouvoir aimer encore. Et à celui qui n'a pas aimé, ben voilà, le salaire, ça sera de ne pas aimer encore et d'éterniser son choix. Donc
oui,
chacun soit ferme son cœur et dans cet onanisme, comme j'ai dit, on essaye de se produire son plaisir à soi-même. Et ça, c'est la définition de l'enfer. Et ça peut se la thèse de l'Église et enfin de toute une métaphysique, c'est qu'au moment où l'âme se sépare du corps, elle entre. Comme elle devient esprit, elle entre dans un choix définitif et irrévocable. Et donc, on peut être dans cette fermeture définitive. Mais cette fermeture commence ici et maintenant, ou dans cette ouverture radicale, et elle s'éternise, ou elle devient définitive. Donc, vous voyez, c'est pas comme si j'ai fait le bien, je reçois. La récompense du bien, c'est le bien. C'est de pouvoir le faire encore.
Oui, c'est une question d'être.
Voilà,
c'est une question d'acte de possession,
voilà. Et alors,
évidemment.
En revanche, il y a quelque chose qui est fondamental dans ce que vous avez dit. Vous avez employé le mot éthique, bon, qui est un mot, à mon avis, pertinent. Mais il y a eu toujours, on pourrait dire, trois tendances. Il y a la dimension éthique qui est fondamentale et qui permet justement d'éviter la division entre le ciel et la terre. Puisque quand il y a ce partage, vous savez, des brebis et des boucs, puisque vous faites référence sans doute à ce passage de l'évangile de Matthieu, le Christ dit, c'est pas celui qui a dit Seigneur, Seigneur. C'est ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, comment est-ce que je vais vers Dieu invisible en allant vers le petit visible ? C'est incroyable, c'est un renversement. Je vais vers le ciel en descendant vers le plus bas de la terre. Donc là, vous voyez, on a ce renversement radical dans cette parabole. Et puis, il y a cette dimension éthique qui vient vraiment tout rassembler. Mais si on sort de ce paradis éthique, on va être dans deux formes d'hérésie, on pourrait dire, paradisiaque. L'une qui est le paradis technique. C'est-à-dire, je vais y parvenir par mes propres forces grâce à des prouesses techniques, que ce soit des techniques d'ascèse ou de mortification.
Ce qu'ont fait beaucoup de saints chrétiens, entre guillemets.
Ce qui a pu exister, mais ça, c'est une dérive. Mais ce qu'on voit aussi dans beaucoup de religions orientales, dans beaucoup de. Voilà. Et puis, de l'autre côté, le paradis, au contraire, technique, mais le paradis, on pourrait dire laxiste. Hein, le paradis, c'est je fais ce que je veux à n'importe quel moment, etc. Mmh. Ce qui vous fait aussi aller droit dans le mur. Donc, vous voyez, ça a toujours été des tendances générales. Et quand on insiste sur le paradis éthique, en fait, sur quoi est-ce qu'on insiste ? Non pas sur la morale, en réalité, mais sur un enjeu métaphysique fondamental, c'est que l'être et la joie de l'être est communion. D'où le mystère d'un Dieu qui est trinitaire, qui est communion de personnes.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin de Fabrice Hadjadj qui nous parle du paradis, à l'occasion de son très beau livre Le Paradis à la Porte, essai sur une joie qui dérange aux éditions du Seuil. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous Fabrice Hadjadj sur votre sous-titre, c'est-à-dire une joie qui dérange. Je crois qu'elle dérange ceux qui n'en ont aucune expérience. C'est-à-dire qu'au fond je ne crois pas que le paradis dérange en soi, c'est qu'il ne nous parle pas. Et je pense qu'il ne parle pas à ceux qui n'ont pas fait d'expérience, peut-être de ce que peut être une joie profonde, un paradis, qu'on goûte à travers une expérience qui peut être une expérience, on écoute Mozart, là c'est bouleversant. Combien de personnes en écoutant Bach ou Mozart ont eu le sentiment justement de vivre une expérience d'une joie profonde d'un paradis.
Commencer par des plus pessimistes, par exemple Cioran,
Absolument.
A des pages admirables sur Mozart et qui où il démolit tout son propre système.
À partir d'une expérience comme ça, extrêmement bouleversante. Alors moi j'ai envie de vous poser la question, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de vous, je sais que vous avez un itinéraire personnel très fort. Qu'est-ce qui a été pour vous la rencontre forte avec le paradis, avec une joie absolue qui vous a conduit dans un chemin spirituel important.
Bon, ça s'est fait par étapes. Hein. Je voudrais pas qu'on ait l'impression qu'il a fallu que j'aie une expérience mystique, spéciale, extraordinaire. Si Dieu est le créateur de toutes choses, alors c'est à travers toutes choses qu'on le rencontre et c'est à travers les expériences les plus ordinaires. Hélas, notre vie est tellement faite de préoccupations que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas accès à notre propre expérience, aux expériences les plus ordinaires. Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis touché par la beauté du visage d'un enfant ou par une symphonie de Mozart? Qu'est-ce qui se passe lorsque je suis scandalisé par le mal qu'il y a dans le monde et que je suis retourné par l'horreur qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous voyez, si je reviens à cette expérience et j'essaye de la méditer, tout d'un coup je dis, ah oui, mais c'est parce que voilà, la beauté et l'embrasure et la promesse, c'est toujours une promesse. Et une promesse de quoi? Vers quoi je... Ou alors, si je vois l'horreur, c'est parce que finalement je crois en la justice. Et je crois qu'il doit y avoir un règne de la justice. Pourquoi est-ce que j'ai cela en moi? Donc l'idée, c'est d'avoir accès à sa propre expérience. Alors bien sûr, pour moi, il y a eu des moments de prise de conscience successifs. Je pense que Nietzsche m'a beaucoup éclairé, ou encore Georges Bataille au départ, puis d'autres, il y a eu des tas d'écrivains, de philosophes, la rencontre de Léon Blois aussi, hein, qui a été pour moi très important dans la découverte d'un catholicisme, je dirais, violent, on pourrait dire ça comme ça, mais d'une violence de la vie, hein, non pas d'une violence de la ruine. Et puis...
vous êtes juif d'origine.
Je suis juif, oui, je suis juif.
Donc vous êtes converti, vous
étiez
baptisé tard.
Je suis juif d'extrême gauche, on pourrait dire, du milieu d'extrême gauche. Mon père appartenait au mouvement Vive la Révolution en mai 68. J'avais rien finalement qui me prédisposait à ça, hein, je dois dire. C'est pour ça que je suis. Je crois qu'il n'y a pas de prédisposition. C'est pour ça que je crois en la grâce, en des retournements complètement inattendus.
C'est le sens de ma question. Mais, est-ce qu'il y a eu un moment de grâce qui vous a fait
oui,
devenir catholique?
Oui, il y a eu un moment, il y a eu des moments en fait. Il y a eu, je vous ai dit, d'abord la découverte du monde catholique que j'ignorais, qui était recouvert par des tas de choses. J'ai eu un professeur qui m'a beaucoup marqué, Jean-Louis Chrétien, qui est un très grand écrivain, un très grand philosophe catholique. Et puis, j'ai eu, donc dans ce contexte-là, un jour où je me suis mis à prier pour mon père qui était malade. Je suis allé à l'église Saint-Séverin devant une vierge dont je m'étais moqué quelques jours auparavant, qui était entourée d'ex-voto que je trouvais ridicule, selon voyez, la trempe, on pourrait dire, voltairienne, d'un esprit bien français, c'est ce que je suis aussi. Et puis, voilà que je me suis retrouvé moi-même devant cette vierge à prier pour mon père, avec cette ironie incroyable, cette double ironie. Non seulement je revenais et j'étais dans la position de ceux que j'avais raillés, et puis je priais pour mon père, et ça va être un moment qui va aussi être important dans la prise de conscience de l'expérience, des expériences que j'avais déjà. À nouveau, je vous dis, ça permet de relire finalement tout ce qui est déjà là. Et la deuxième ironie, donc, c'est que ça va être un moment important de ma conversion, et que ma conversion, bien sûr, mon père ira mieux par la suite, mais ma conversion sera aussi pour lui une de ses grandes déchirures, parce que mes parents sont les deux juifs et je suis le seul catholique de ma famille. Mais on a d'excellents rapports et on s'aime profondément et on se voit toujours. Et c'est justement c'est cet amour qui fait que la déchirure ou la blessure est grande, parce qu'on a un désir profond d'être ensemble, quoi. Voilà, et puis après, il y a eu des choses. Bon, il y a eu ma découverte du monde, enfin, de la vie monastique à Solesmes. Et j'ai été baptisé à l'abbaye de Solesmes. Puis après, eh bien, le mariage et la paternité. Et je dois dire que, parce que souvent on parle du baptême, du retournement, mais en fait, pour moi, le sacrement de mariage a été très très important dans l'entrée dans quelque chose de très concret. Et la paternité aussi, à travers les enfants, vraiment par mes enfants. Enfin, j'ai beaucoup reçu de mes enfants. Mes enfants sont un peu mes pères aussi, enfin les pères de ma joie. Parce que c'est vrai qu'il y a chez eux une manière de vivre et d'être ouvert justement à l'émerveillement, voilà, qui est très mozartienne justement. Et je dois vous dire que mon père spirituel, qui est un moine de Solesmes, quand je suis venu vers lui avec mon premier enfant, j'en ai cinq maintenant, il m'a dit « Eh bien voilà, maintenant tu tiens dans tes bras ton maître spirituel ».
Alors, cette émission touche à sa fin, il nous reste quelques minutes. On va peut-être terminer par Dante, Lélie Anvar.
Donc c'est la fin du paradis, donc la fin de la Divine Comédie. où on voit que finalement, alors là pour le coup c'est quand même l'âme de Dante qui pèlerine vers la vérité, et où Dante nous dit que le point ultime, hein, le fait du paradis, c'est tout de même la lumière, c'est-à-dire c'est la connaissance et la grâce mêlées. Et c'est peut-être ce que j'ai le plus aimé en fait dans tout ce que vous dites, si je devais résumer quelque chose, c'est l'idée très classique, chez les mystiques en tout cas, que le paradis c'est la proximité de Dieu et que l'enfer n'est jamais que le fait d'être éloigné de Dieu et donc de la vérité.
Et que cette proximité de Dieu ne se fait qu'à travers la proximité du prochain. C'est ça qui est extraordinaire chez Dante, c'est qu'il ne peut aller vers Dieu que par Béatrice. C'est-à-dire que ce qui est déposé déjà ici et maintenant est appelé à fleurir et à fructifier, et voilà, de manière encore à peine imaginable, sauf par des très très grands poètes comme Dante par exemple. Et dans mon livre, il y a quand même des passages importants de théologie, de la vision béatifique, de la résurrection des corps,
sur la théologie,
voilà,
etc.
Et j'essaye de montrer justement aussi la vocation poétique des corps, ce qu'on oublie souvent, c'est-à-dire que le corps est appelé à être une sorte de grand chef d'orchestre cosmique, voyez, pour célébrer, pour être dans cette créativité sans fin. Mais ce que je rappelle, c'est que l'éternité ne nous stérilise pas. Plus on est avec le Créateur, plus on devient créatif. Et finalement, le paradis, on oublie ça, c'est le lieu aussi de la plus haute créativité.
Donc, terminons cette émission par ce texte de Dante.
Donc, c'est la fin du paradis, donc la fin de la Divine Comédie, où on voit que finalement, alors là, pour le coup, c'est quand même l'âme de Dante qui pèlerine vers la vérité, et où Dante nous dit que le point ultime, hein, le fait du paradis, c'est tout de même la lumière, c'est-à-dire c'est la connaissance et la grâce mêlées. Et c'est peut-être ce que j'ai le plus aimé, en fait, dans tout ce que vous dites, si je devais résumer quelque chose, c'est l'idée très classique, chez les mystiques en tout cas, que le paradis, c'est la proximité de Dieu et que l'enfer n'est jamais que le fait d'être éloigné de Dieu et donc de la vérité.
Et que cette proximité de Dieu ne se fait qu'à travers la proximité du prochain. C'est ça qui est extraordinaire chez Dante, c'est qu'il ne peut aller vers Dieu que par Béatrice.
Ainsi mon âme, tout en suspens, regardait fixement, immobile, attentive, et s'enflammait sans cesse à regarder encore. À cette lumière, on devient tel que se détourner d'elle pour une autre vision est impossible à jamais consentir. Puisque le bien qui est seul objet du vouloir s'accueille tout en elle et hors d'elle, est en défaut ce qui là est parfait. Non pas que plus d'une seule apparence fût enclose dans la lumière que je voyais, car elle est toujours telle qu'elle était alors. Mais pour la vue qui gagnait en valeur, en moi qui regardais, une seule apparence, tandis que je changeais, pour moi se transmuait. Dans la profonde et claire subsistance de la haute lumière, trois cercles m'apparurent, de trois couleurs et de grandeur unique, et l'un par l'autre, comme iris en iris, paraissait réfléchi, et le troisième semblait un feu, qui d'ici et de là pareillement respire. Oh, comme le dire est faible, et qu'il est court à ma pensée, si court devant ce que j'écris, que dire peu ne suffit pas. Oh, lumière éternelle qui seule en toi réside, seule te pense, et par toi entendu et t'entendant, rit à toi-même et t'aime. Ici la haute fantaisie perd sa puissance. Mais déjà, il tournait mon désir, et vouloir tout comme roue également poussée, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles.
Fabrice Hadjadj, je rappelle votre livre « Le paradis à la porte, essai sur une joie qui dérange » aux éditions du Seuil. Donc vous retrouvez sur le site internet toutes les informations utiles. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui du paradis.
Merci à vous, Frédéric.
Au revoir. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.com. Dimanche prochain, je recevrai Elisabeth Barillet qui nous parlera de Lou Andreas Salomé. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.